Chapitre 13. Voilà un mois que je n'ai pas touché à ces notes. La catastrophe dont je pressentais alors l'approche a été plus prompte encore que je n'avais pensé. Tout cela a été passablement tragique, enfin, du moins pour moi. Je ne puis encore comprendre ce qui m'est arrivé. C'est comme un rêve. Ma passion même a passé. Elle était pourtant forte et réelle. Où est-elle maintenant? Me voilà seul, tout seul. L'automne commence, les feuilles jaunissent. J'habite toujours la même petite ville triste. Oh, quelles sont tristes ces villes allemandes! Au lieu de réfléchir à ce qu'il convient que je fasse, je vis sous l'affluence des événements accomplis, pris encore dans le récent tourbillon qui m'a rejeté loin de mon centre naturel. D'ailleurs, peut-être arriverai-je à voir clair dans l'avenir, si je parviens à me rendre compte de ma vie durant tout ce mois passé. La démangeaison d'écrire me reprend, et pourtant, je prends à la pauvre petite bibliothèque de l'endroit les volumes de Paul de Kock, c'est la traduction allemande, que je déteste mais que je lis. Pourquoi donc? Est-ce pour conserver le souvenir du cauchemar qui vient de finir, que je fuis toute occupation sérieuse? M'est-il donc si cher? Mais certes, dans 40 ans, j'y songerai encore. Je reprends donc mes notes. Finissons-en d'abord avec la babouchka. Le lendemain, elle perdit, d'après le compte de Popavitch, 90 000 roubles. Cela ne manquait, pouvait d'arriver. Elle, quand un pareil tempérament s'engage dans une telle voie, il n'en peut plus sortir. C'est un traîneau lancé sur une pente de glace. Toujours plus vite, jusqu'à l'abîme. La seule chose qui m'étonna fut que cette vieille femme eût pu rester assise dans son fauteuil pendant 8 heures. Mais Potapitch m'expliqua que plusieurs fois elle réalisa des gains importants, exaltée alors par une nouvelle espérance, elle ne songeait plus à s'en aller. Du reste, les joueurs savent qu'un homme peut rester 24 heures à la table de jeu sans que les cartes se brouillent devant ses yeux. Cependant, ce même jour, des événements décisifs s'étaient passés à l'hôtel. Le matin, déjà avant 11 heures, le général et De Griers s'étaient décidés à faire une dernière tentative. Ayant appris que la babouchka ne changeait plus à partir et retournait à la gare, ils vinrent lui parler franchement. Le général tremblait. Il avoua tout. Ses dettes, sa passion pour Mademoiselle Blanche. Puis tout à coup, il prit un ton menaçant, se mit à crier, à frapper du pied. Il lui reprochait d'être la ronde de sa famille, d'être la femme de toute la ville, et qu'enfin, « Oh, enfin, vous faites de honte à toute la Russie, madame, et la police n'a pas été inventée pour rien. » Oh, la babouchka le mit à la porte, en le menaçant avec une canne. Le général et De Griers eurent cette même matinée-là plusieurs conciliabules. Ils songèrent sérieusement à employer en effet la police, sous prétexte que la babouchka était folle, prodigue, etc. Mais De Griers haussait les épaules, se moquait du général qui allait et venait dans son cabinet, la tête perdue. Enfin, le petit Français fit un geste désespéré et s'en alla. On apprit le même soir qu'il avait quitté l'hôtel après avoir eu avec Mademoiselle Blanche un long entretien. Quant à cette dernière, elle avait pris à l'avance ses mesures. Elle avait donné congé au général en bonne et due forme. Elle ne voulait plus le voir. Le général courut après et la retrouva à la gare. Elle s'en allait bras dessous avec son prince. Ni elle ni Madame de Comminges ne le reconnurent. Le petit prince ne le salua pas non plus. Néanmoins, celui-ci ne s'était pas encore prononcé. Mademoiselle Blanche faisait les derniers efforts pour obtenir qu'il prît une décision. Hélas, elle s'était cruellement trompée. Le soir même, elle apprit que le petit prince était nu comme un ver, et qu'il comptait sur elle, comme elle-même avait compté sur lui, pour pouvoir jouer à la roulette. Blanche le chassa de chez elle et s'enferma dans son appartement. Dans la matinée de ce jour mémorable, je cherchais vainement M. Astley. Il ne déjeunait même pas à l'hôtel. Vers 5 heures, je l'aperçus inopinément à la station du chemin de fer, se dirigeant vers l'hôtel d'Angleterre. Il marchait vite, semblait soucieux. Il me tendit la main cordialement avec son « ah » ordinaire et sans s'arrêter. Mais je n'obtins de lui aucun renseignement. Il m'eût été d'ailleurs très pénible de parler avec lui de Paulina, et de son côté, il ne fit aucune allusion à elle. Je lui racontai l'histoire de la babouchka. Il haussa les épaules. « Oh, la chevrotte se ruiner, » remarquai-je. « Évidemment, » répondit-il, « si j'ai le temps, j'irai la voir jouer. C'est très curieux. Où étiez-vous donc toute la journée ?»« Oh, à Francfort. »« Pour affaires ?»« Oui. » Qu'avais-je encore à lui demander ? Pourtant, je ne le quittais pas. Mais arrivé à la porte de l'hôtel des 4 saisons, il me salua et disparut. En revenant chez moi, je me persuadai qu'une conversation de 2 heures avec l'Anglais ne m'en aurait pas appris davantage, car je n'avais en somme rien à lui demander, assurément. Paulina passa la journée à se promener avec la bonne et les enfants dans le parc. Elle évitait le général. D'ailleurs, j'avais déjà remarqué cela, rien ne pouvait la troubler. Tous les tracas parmi lesquels elle vivait n'avaient pas altéré son calme habituel. Elle répondit à mon salut par un hochement de tête. Je rentrai chez moi très irrité. Certes, je ne cherchais pas à lui parler, et depuis l'incident Vogelhelm, nous ne nous étions pas revus. Certes, je jouais l'orgueilleux, et plus le temps passait, plus ma colère montait. Qu'elle ne m'aima pas du tout, passe, mais du moins, elle ne devait pas me fouler ainsi aux pieds et accueillir avec tant de dédain mes protestations de dévouement. Elle sait que je l'aime. Elle m'a permis de lui parler de mon amour. Cela a commencé étrangement, il est vrai. Il y a longtemps de cela, ou déjà 2 mois, je m'aperçus qu'elle voulait faire de moi son ami, son homme de confiance. Elle essaya. Mais cela réussit mal et n'aboutit qu'à nos singulières relations actuelles. Si mon amour lui déplaît, pourquoi ne pas me défendre de lui en parler ? Mais elle me le permet, elle me provoque même à ses entretiens. Et ce n'est que pour se moquer de moi. Elle prend plaisir, après m'avoir mis hors de moi, à m'abattre d'un seul coup, avec quelques sarcasmes d'indifférence méprisante. Elle sait pourtant bien que je ne puis pas exister sans elle. Voilà 3 jours passés depuis l'histoire du baron, et je ne puis plus supporter notre séparation. En la rencontrant tout à l'heure dans le parc, le cœur me battait avec une indicible violence. Elle non plus ne peut pas vivre sans moi. Je lui suis nécessaire, mais serait-ce seulement à titre de bouffon ? Elle a un mystère dans sa vie, c'est clair. Sa conversation avec la babouchka m'a douloureusement ému. J'ai pourtant 1000 fois supplié d'être franche avec moi. Elle savait que j'étais prêt à donner ma vie pour elle, mais elle ne me marquait que du mépris. Au lieu de ma vie que je lui offrais, elle n'exigeait de moi que de ridicules incartades, celle avec le baron par exemple. C'était révoltant. C'est donc ce Français qui résume le monde à ses yeux ? Et Monsieur Astley ? Oh, ici la chose devenait décidément incompréhensible. En rentrant dans un transport de rage, je saisis ma plume et j'écrivis ceci. Paulina Xlandrovna, je vois clairement que le dénouement approche. Pour la dernière fois, je vous demande, voulez-vous, oui ou non, ma vie? Si je vous suis utile à n'importe quoi, disposez de moi. J'attends votre réponse, je ne sortirai pas avant de la voir. Écrivez-moi ou appelez-moi. Je cachetai la lettre, je la fis porter par le garçon, avec l'ordre de la remettre en main propre. Je n'attendais pas de réponse, mais 3 minutes après, le garçon va me dire qu'on lui avait commandé de me saluer. Vers 7 heures, on m'appela chez le général. Il était dans son cabinet, tout prêt pour sortir. Il se tenait au milieu de la chambre, les jambes écartées, la tête penchée, et se parlait à lui-même à haute voix. Dès qu'il m'eut aperçu, il se précipita à ma rencontre avec un tel cri que je reculai machinalement. Mais il saisit mes deux mains et m'entraîna vers le divan où il s'assit. Il me força à m'asseoir dans un fauteuil en face de lui, sans lâcher mes mains. Ses lèvres tremblaient, ses yeux étaient humides de larmes. Il me dit d'une voix suppliante, « Alexis Ivanovitch, sauvez-moi, sauvez-nous !» Longtemps, je fus sans rien comprendre. Lui parlait toujours, répétant sans cesse, « Mais de grâce, de grâce !» Enfin, je compris qu'il attendait de moi quelque chose comme un conseil, ou pour mieux dire que, abandonné de tous, inquiet et désolé, il avait pensé à moi et m'avait appelé seulement pour parler, parler, parler. Il était fou. Du moins, il avait momentanément perdu la tête. Il joignait les mains, voulait se jeter à genoux devant moi. Pourquoi, à votre avis? Pour que j'allasse tout de suite chez Mademoiselle Blanche, la supplier de revenir auprès de lui et de l'épouser. « Mais voyons, général, Mademoiselle Blanche ne se soucie pas de moi. Alors que puis-je pour vous auprès d'elle ?» Mais rien n'y fit, il ne m'entendait même pas. En pleurant presque, il me conta que Mademoiselle Blanche refusait de l'épouser parce qu'elle était convaincue qu'il n'hériterait pas de la babouchka. Il semblait croire que tout cela était nouveau pour moi. Je fis une allusion à De Griers, mais il me répondit avec un geste désespéré. Parti. Je lui ai engagé tous mes biens. Cet argent que vous avez apporté, combien reste-t-il? 700 francs, je crois. C'est tout ce que je possède. Mais comment réglerez-vous votre note d'hôtel? Et puis après, que ferez-vous? Il me considéra d'un air absorbé. Il ne m'avait pas compris. J'essayais de lui parler de Paulina et des enfants. Il répondit vivement, oui, oui, oui. Et aussitôt, il se mit à parler du prince, que Blanche s'en allait avec lui, et qu'alors, alors... Mais que vais-je faire, Alexis Ivanovitch? Je vous jure par Dieu, dites, n'est-ce pas de l'ingratitude? Mais oui, oui, c'est de l'ingratitude. Et il fondit en larmes. Il n'y avait rien à faire avec lui. Je fis savoir à la bonne dans quel état il était. Je fis avertir aussi le garçon afin qu'on le surveillât. Et je sortis. Juste en ce moment, Potapitch vint me prévenir que la babouchka me demandait. Il était 8 heures. Elle revenait de la gare où elle avait perdu tout l'argent qu'elle avait apporté de Moscou. Je la trouvai dans son fauteuil, lasse, malade. Marfa lui présentait une tasse de thé qu'elle la forçait presque de boire. Le ton de la pauvre dame était tout à fait changé. « Bonjour, mon petit père, » dit-elle lentement. « Pardonne-moi de t'avoir dérangé encore une fois. Pardonne cela à une vieille femme. Ben, j'ai perdu là-bas, mon petit père, près de 100 000 roubles. T'avais raison de ne pas vouloir m'accompagner. Je suis maintenant sans un copec. J'ai envoyé chez ton anglais Astley. Je lui demande de me prêter 3 000 francs pour 8 jours. Personne, lui, de ne pas me refuser. Je suis encore assez riche. J'ai 3 villages et 2 maisons. Il me reste aussi de l'argent. Je n'ai pas tout pris sur moi. Ah tiens, le voici justement. On voit bien vite quand un homme sait vivre. Au premier appel de la vieille dame, M. Astley s'était donc hâté de se rendre auprès d'elle. Sans trop parler, il lui compta aussitôt 3 000 francs en échange d'un billet que la babouchka signa, puis il salua et sortit. « Ben, tu peux t'en aller aussi, Alexis Ivanovitch. Il ne me reste qu'une heure, je vais me reposer un peu. Ne sois pas fâché contre moi, je suis une vieille sotte. Je n'accuserai plus les jeunes gens de légèreté. Et le général, ce pauvre général, lui aussi, c'est péché de l'accuser. Mais hein, quand t'as de l'argent, il n'en aura pas, il est trop bête. Mais je suis pas plus intelligente que lui, vraiment. Dieu punit les vieux comme les jeunes du péché d'orgueil. Allez, adieu. » Je voulus reconduire la babouchka. Il me semblait que quelque chose de grave allait se passer. Je ne pus rester chez moi. Ma lettre à elle était décisive. Mais la catastrophe actuelle était plus décisive encore. Les gens de l'hôtel me confirmèrent le départ de De Grillet que m'avait annoncé le général. « Si elle ne veut pas de moi comme ami, me disais-je, qu'elle m'agrée au moins pour domestique, je pourrais toujours faire ses commissions. » Au bout d'une heure, je retournais donc chez la babouchka et je l'accompagnais jusqu'au train. Je l'installais même dans un wagon. « Merci, mon petit père, pour ton obligeance désintéressée, me dit-elle. Répète à Praskovia ce que je lui ai dit hier. Je l'attends à Moscou. » Je repris le chemin de l'hôtel. En passant devant l'appartement du général, je rencontrai la bonne qui me dit tristement qu'il n'y avait rien de nouveau. J'entrai pourtant. Mais à la porte du cabinet, je m'arrêtai stupéfait. Mademoiselle Blanche et le général riaient à gorge déployée à qui des deux rirait le plus fort. La dame Comminges était là, elle aussi. Le général était évidemment fou de joie. Il bredouillait des paroles incohérentes. Je sus par la suite, et de Mademoiselle Blanche elle-même, qu'après avoir chassé le prince, elle avait appris le désespoir du général et qu'elle était allée un moment chez lui pour le consoler. Mais le pauvre homme ignorait que son sort n'en était pas moins décidé et que pendant qu'il riait ainsi à se tordre, on faisait les malles de Blanche et qu'elle devait le lendemain, par le premier train, prendre son vol vers Paris. Après être resté quelques minutes sur le seuil du cabinet, je renonçais à entrer et je m'esquivais sans être vu. Je remontais chez moi. En ouvrant la porte, j'entrevis dans la demi-obscurité de la chambre la silhouette indécise d'une femme assise sur une chaise dans un coin près de la fenêtre. Elle ne se leva pas à mon entrée. Je m'approchai vivement, je regardais. La respiration me manqua. Chapitre 14. Je poussai un cri. « mais quoi » dit-elle d'un air étrange. Elle était pâle et morne. « Comment, mais quoi, vous, ici, chez moi ? » ?»« Oh, si je suis venu, c'est tout entière. C'est mon habitude, vous en jugerez tout à l'heure. Allumez la bougie. » J'allumai la bougie. Elle se leva, s'approcha de la table, posa devant moi une lettre décachetée en me disant « Lisez !» Mais c'est l'écriture de Grillet, m'écriai-je en saisissant le papier. Mes mains tremblaient, et les lignes dansaient devant mes yeux. J'ai oublié les termes précis de la lettre, mais en voici le sens. Mademoiselle, des circonstances malheureuses m'obligent à partir sur le champ. Vous ne serez pas sans avoir remarqué que j'ai expressément évité toute explication avec vous. L'arrivée de la vieille dame et sa folie ont mis fin à toutes mes hésitations. Mes propres affaires compromises m'interdisent de continuer à me bercer d'espérances qui jusqu'ici ont été ma seule joie. Je regrette le passé, mais j'espère que vous ne trouverez rien dans ma conduite qui ne soit digne d'un galant homme et d'un honnête homme. À peu près ruiné par la débâcle de votre beau-père, je suis obligé de profiter du peu qui me reste. J'ai déjà chargé mes amis de Pétersbourg de vendre tous les biens qu'ils m'avaient engagés. Connaissant pourtant la légèreté d'esprit du général qui a perdu sa fortune par sa faute, j'ai résolu de lui laisser 50 000 francs et de lui rendre ses engagements, de sorte que vous pouvez maintenant lui reprendre tout ce qu'il vous a fait perdre, en exigeant par voie judiciaire la restitution de vos biens. J'espère, mademoiselle, que le parti que j'ai pris vous sera profitable. J'espère aussi, par là, avoir rempli les obligations d'un galant homme. Soyez convaincu que votre souvenir est à jamais gravé dans mon cœur. Eh bien, c'est clair, dis-je en m'adressant à Paulina. Attendiez-vous de lui autre chose? Ajoutai-je avec indignation. Oh, je n'attendais rien, répondit-elle, très calme, mais sa voix tremblait. Je suis résolue à tout depuis longtemps. Je le connais. Il a pensé que je chercherais, que j'insisterais. Elle s'arrêta sans achever sa phrase, se mordit la lèvre et se tut. J'avais redoublé de mépris à son égard, attendant ce qu'il ferait. Si le télégramme annonçant l'héritage était venu, je lui aurais jeté à la tête l'argent que lui devait cet idiot, que lui devait mon beau-père, et je l'aurais chassé. Il y a longtemps que je le hais. Oh, ce n'était pas le même homme auparavant, 1000 fois non. Et maintenant, maintenant, avec quel bonheur je lui aurais jeté sur sa vile figure ces 50 000 francs, mais je les lui aurais crachés à la face. Mais ce papier, cet engagement des 50 000 francs rendus, il est chez le général, n'est-ce pas? Ben prenez-le et rendez-le à De Griers. Oh, ce n'est pas ça, ce n'est pas cela. Oui, c'est vrai, ce n'est pas cela. Et la babouchka, m'écriai-je tout à coup. Paulina me regarda d'un air distrait et impatient. Quoi, la babouchka? Oh, je ne puis pas aller chez elle, et d'ailleurs je ne veux demander pardon à personne, ajouta-t-elle avec irritation. Mais que faire? Comment pouvez-vous aimer un tel homme? Voulez-vous que je le provoque en duel? Je le tuerai. Où est-il maintenant? Il est à Francfort pour 3 jours. Un mot de vous et j'y vais par le premier train, dis-je avec un stupide enthousiasme. Elle se mit à rire. Et s'il vous dit, rendez-moi d'abord les 50 000 francs. Et puis pourquoi se battrait-il? Quelle sottise! Ou prendre ces 50 000 francs, répétai-je en grinçant des dents, comme si on pouvait les ramasser par terre. Écoutez. Et monsieur Astley? Ses yeux jetèrent des éclairs. Eh bien, est-ce que toi-même, tu veux que je te quitte pour cet Anglais? Dit-elle avec un regard qui me transperça et un sourire triste. C'était la première fois qu'elle me disait « toi ». Il semblait que la tête lui tourna. Elle se laissa tomber sur le divan. J'étais comme foudroyé. Je n'en croyais ni mes yeux ni mes oreilles. Quoi donc, elle m'aimait? Elle était venue à moi et non pas à M. Astley. Elle, seule, une jeune fille, dans ma chambre. Elle s'était délibérément compromise aux yeux de tous, et moi j'étais là devant elle, sans rien comprendre. Une pensée étrange me vint. Paulina, donne-moi seulement une heure et je reviendrai. C'est nécessaire. Tu verras, reste ici, attends-moi. Je m'enfuis sans répondre à la question qu'elle me jeta. Oui, parfois, une pensée bizarre, impossible, s'enfonce si fortement dans l'esprit qu'on finit par la prendre pour une réalité. Plus encore, cette pensée est fortifiée par le désir, un désir irrésistible et fatal. Quoi qu'il en soit, cette soirée est pour moi inoubliable. Un vrai miracle, bien justifié par l'arithmétique, mais un miracle tout de même. Il était déjà 10h15. Je cours à la gare avec le ferme espoir, l'assurance presque de gagner. Jamais je n'avais été autant ni si étrangement ému. Il y avait encore du monde, car c'est l'heure où les vrais joueurs, ceux pour qui il n'y a au monde que la roulette, commencent leur journée. Je m'assieds à la table même où la babouchka avait d'abord gagné, puis perdu tant d'argent. Juste en face de moi, sur le tapis vert, était écrit le mot « passe ». Je tire de ma poche mes 20 louis et je les jette sur ce mot « passe ».« 22 !» crie le croupier. Je gagnais. Je remets de nouveau le tout, mise et premier gain. « 31 !» encore gagné. J'avais déjà 20 louis. Je remets le tout sur la douzaine du milieu. Le gain est triple, mais on a 2 chances de perdre contre 1. 24. On me donne 3 rouleaux de 50 louis et 10 pièces d'or. J'avais en tout 200 louis. J'étais comme dans une hallucination. Je mets le tout sur le rouge. Et voilà que brusquement, oh, je reviens à moi et suis pris de terreur. Mais ce sentiment s'effaça vite et ne reparut pas. Je comprenais tout ce que je risquais à perdre toute ma vie. Rouge ! Je respirais. Puis des frissons enflammés m'envahirent quand je retirai les billets de banque. J'avais en tout 4 000 florins et 80 louis. Je mets 2 000 florins sur la douzaine du milieu et les perds. Mon or est 80 louis sur les mêmes numéros, perdu encore. La rage me prit, je saisis les 2 autres 2 000 florins et les mis sur la première douzaine, sans réflexion, sans calcul. Pourtant, je me rappelle que j'eus une sensation qui ne me semble comparable qu'à celle que dut éprouver Madame Blanchard lorsqu'elle tomba de son ballon. De nouveau, j'avais 6 000 florins. Oh, je m'estimais déjà certain de la victoire. Je jetai 4 000 florins sur le noir. 9 joueurs m'imitèrent. Les croupiers se regardaient. Tout autour, on causait dans l'attente. Noir ! À partir de ce moment, je ne me souviens d'aucune mise, d'aucun compte. Je me rappelle seulement, comme dans un rêve, que je gagnais 16 000 florins. 3 coups malheureux me firent perdre 12 000 florins. Je mis les 4 derniers 1000 sur le passe. J'étais devenu insensible, j'attendais et agissais mécaniquement sans penser. Je gagnais de nouveau et 4 fois de suite. Je me rappelle encore que j'avais devant moi des monceaux d'or et que c'était surtout la douzaine du milieu qui sortait le plus souvent 3 fois sur 4, puis disparaissait 1 ou 2 fois pour revenir de nouveau 3 ou 4 fois de suite. Cette régularité étonnante procède parfois par série, et c'est ce qui fait perdre la tête au vrai joueur qui joue le crayon à la main. Il pouvait s'être passé 1 demi-heure depuis mon arrivée. Tout à coup, les croupiers me firent observer que j'avais gagné 30 000 florins et qu'on allait fermer la roulette jusqu'au lendemain. Je saisis tout mon or, je le mis dans mes poches, pêle-mêle avec les billets, et courus dans une autre salle à une autre table de roulette. Toute la foule me suivit. On me donna une place et je mis de nouveau à ponter au hasard, sans compter. Je ne puis comprendre ce qui me sauva. Parfois, du reste, les numéros dansaient devant mes yeux, et je m'attachais à certains de ces chiffres, mais toujours sans obstination, et je misais inconsciemment. Je devais être très distrait. Je me rappelle que le croupier corrigeait souvent mon jeu. Mes tomes étaient moites, mes mains tremblaient. La chance ne cessait pas. Mais tout à coup, on se mit à parler de tous côtés et à rire. « Bravo, bravo !» Il y en avait qui applaudissaient. Là aussi, j'avais gagné 30 000 florins et on fermait la roulette jusqu'au lendemain. « Allez-vous-en !» me disait une voix à droite. C'était un juif de Francfort. Il ne me quittait pas, il m'aidait parfois à faire mon jeu. « Pardieu, allez-vous-en !» murmurait une autre voix à gauche. C'était une dame très modestement et très correctement vêtue, d'une 30aine d'années, un peu fatiguée et d'une pâleur maladive, mais conservant encore les traces d'une beauté merveilleuse. À ce moment, je bourrais mes poches de billets de banque et je ramassais l'or. J'eus le temps de glisser les deux derniers rouleaux de 50 louis dans la main de la dame pâle sans que personne s'en aperçût. Ses doigts maigres serrèrent fortement les miens en signe de reconnaissance. Oh, tout cela ne dura qu'un instant. Ayant ramassé le tout, je me dirigeais vivement vers le 30 et 40. Là, le public est plus aristocratique. Ce n'est pas une roulette, c'est un jeu de cartes. Les banques répondent pour 100 000 thalers chaque soir. La plus grosse mise est aussi de 4 000 florins. J'ignorais le jeu, sauf ces combinaisons de rouge et de noir auxquelles je m'attachais. Toute la foule qui avait suivi m'entourait. Je ne sais si j'eus une seule pensée pour Paulina. Je n'avais que l'instinct de saisir et d'empocher les billets de banque qui s'empilaient devant moi. En effet, on eût dit qu'une force fatale me faisait agir. Cette fois, un fait d'ailleurs assez fréquent se produisit. Si la chance s'installe au rouge, il arrive qu'il passe 10 ou 15 fois de suite. 3 jours auparavant, le rouge était sorti 22 fois sans interruption. Or, il va sans dire qu'au bout de 10 coups, personne ne joue plus sur la même couleur. Pourtant, on ne ponte pas davantage sur l'autre couleur, car on se défie des caprices du hasard. Après 16 rouges, le 17e coup doit être noir. Les novices pontent double et triple sur le noir et perdent. Le rouge était donc sorti 3 fois de suite. Je résolus de m'attacher à cette couleur. Il y avait de l'orgueil dans mon affaire. Je voulais étonner par mon audace. On criait autour de moi que j'étais fou. Le rouge venait de sortir pour la 14e fois. « Oh, monsieur a déjà gagné 100 000 florins !» fit une voix derrière moi. Oh, je revins brusquement à moi. Comment j'avais gagné en une seule soirée 100 000 florins ? Mais cela me suffisait. Bon, je me précipitai sur les billets, je les mis en paquet dans mes poches, et m'enfuis de la gare. On riait sur mon passage, on se montrait mes poches gonflées, on commentait ma démarche, que le poids de l'or rendait inégal. Je portais plus d'un demi-pound. Plusieurs mains étaient tendues vers moi, je fis des distributions de poignées d'or. 2 juifs m'arrêtèrent à la sortie. « Oh, vous avez du courage, allez-vous-en, quittez la ville de demain !» « Vous perdrez tout !» me dirent-ils. Je ne leur répondis pas. L'heure était avancée, j'avais encore une demi-verste jusqu'à l'hôtel. Je n'avais jamais eu peur des voleurs, même dans mon enfance, et je n'y pensais pas davantage cette fois. Je ne pensais qu'à mon triomphe. Pourtant, mes sensations étaient mêlées, presque pénibles. C'était un sentiment presque douloureux de victoire. Soudain, le visage de Paulina apparut à mon imagination. Je me souvins que j'allais la revoir, lui raconter, lui montrer. Mais je ne me rappelais plus ni ses récentes paroles, ni pourquoi j'étais allé à la gare, ni rien enfin de tout ce passé devenu pour moi si vieux en si peu de temps. Je ne devais plus m'en souvenir désormais, en effet, car voilà qu'une nouvelle vie commençait pour moi. Presque au bout de l'allée, je fus pris subitement de terreur. Et si on m'assassinait? Si on me dévalisait? Ma terreur redoublait à chaque pas. Je courais presque. Tout à coup, notre hôtel m'apparut, étincelant de toutes ses lumières. Ah, grâce à Dieu, me voici arrivé. Je gravis vivement mes trois étages et j'ouvris la porte. Paulina était toujours là, sur le divan, les mains croisées sur la poitrine. Elle me regarda avec étonnement et certes, je dus lui paraître étrange. Je mis devant elle et posai sur la table tout mon argent. Chapitre 15. Elle me regardait fixement, sans bouger. J'ai gagné 200 000 francs, prononçai-je en jetant les derniers rouleaux sur la table. Le tas de billets et les pièces couvraient la table. Je ne pouvais les quitter des yeux. J'en oubliais Paulina elle-même. J'essayais de les mettre en ordre, puis je mêlais tout, puis je me mettais à marcher à travers la chambre, rêveur, puis je recommençais à compter. Tout à coup, je me jetais vers la porte que je fermais à double tour, et alors me plantais devant ma petite valise. Si j'enfermais tout ça là-dedans jusqu'à demain? Oh oui, jusqu'à demain, répétai-je en me tournant vers Paulina. Je m'étais souvenu d'elle en cet instant même. Paulina restait toujours immobile, me suivant des yeux. Étrange était l'expression de son visage, une expression désagréable. Il y avait de la haine dans son regard. Je m'approchai d'elle. Paulina, lui dis-je, voici 25 000 florins, plus de 50 000 francs. Allez, jetez-les-lui demain à la figure. Elle ne me répondit pas. Ben, si vous voulez, je les lui porterai moi-même, demain de bonne heure, voulez-vous? Elle se mit à rire, et elle rit longtemps. Je la regardais avec stupeur, avec douleur. C'était le rire qu'elle affectait à l'ordinaire quand je lui faisais mes déclarations les plus passionnées. Elle cessa enfin, devint morte et me regarda en dessous. Je ne veux pas de votre argent, dit-elle avec mépris. Mais pourquoi? Pourquoi donc, Paulina? Je ne veux rien pour rien. Mais je vous l'offre en ami, et je vous offre aussi ma vie. Elle me jeta un long et perçant regard, comme si elle eût voulu lire au fond de mes pensées. Vous payez bien, reprit-elle en souriant. La maîtresse de De Griers ne vaut pas 50 000 francs. Paulina, pouvez-vous me parler ainsi? Suis-je donc un De Griers? Mais je vous hais, oui, je ne vous aime pas plus que De Griers, s'écria-t-elle les yeux enflammés. Elle cacha ensuite son visage dans ses mains et fut prise d'une crise de nerfs. Je me précipitai vers elle. Je compris que pendant mon absence, quelque chose d'anormal avait dû lui arriver. Elle était comme folle. Achète-moi, veux-tu, pour 50 000 francs comme De Griers, criait-elle d'une voix entrecoupée de sanglots. Je la pris dans mes mains, je baisais ses mains, ses pieds, j'étais agenouillé devant elle. La crise passa. Revenue à elle, elle posa ses deux mains sur mes épaules et m'examina avec attention. Elle m'écoutait, mais visiblement, elle n'entendait pas ce que je lui disais. Son visage était devenu soucieux. Je craignais pour elle. Il me semblait que son intelligence se troublait. Tantôt, elle m'attirait doucement vers elle et me souriait avec confiance. Tantôt, elle me repoussait et de nouveau m'examinant d'un air désespéré. Et tout à coup, elle m'étreignit. « Mais tu m'aimes ?» demandait-elle. « Tu as donc voulu te battre avec le baron pour moi ?» Elle s'interrompit et se mit à rire, comme si une idée comique lui avait passé par la tête. Elle pleurait et riait à la fois. Que faire ? Je me sentais venir la fièvre. Je ne comprenais plus ce qu'elle me disait. C'était une sorte de délire, comme si elle eût voulu me raconter tout en très peu de mots, un délire interrompu de folle gaieté qui m'épouvantait. « Non, non, tu es ma joie, » répétait-elle, « tu m'es fidèle, toi. » Et elle posait de nouveau ses mains sur mes épaules, me regardant au fond des yeux et répétait, « Mais tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimeras. » Je ne la quittais pas des yeux. Je ne l'avais jamais vue dans un tel excès d'amour. C'était du délire, il est vrai, mais... Elle souriait malicieusement à mon regard passionné. Tout à coup, à brûle-pourpoint, elle se mit à parler de M. Astley. Elle répétait sans cesse, « Oh, qu'il attende, qu'il attende !» et me demandait si je savais qu'il était là, sous la fenêtre. « Oui, oui, sous la fenêtre, ouvre, regarde !» « Il y est ?» Elle me poussait vers la fenêtre. Mais aussitôt que je faisais un mouvement pour me lever, elle éclatait de rire et recommençait à m'étreindre. « Nous partirons demain, » dit-elle tout à coup. Elle resta songeuse. « Qu'en penses-tu ? Atteindrons-nous la babouchka ? Qu'en penses-tu ? Oh, je crois que nous la trouverons à Berlin. » « Que crois-tu qu'elle dise en nous voyant ? Et Monsieur Astley, c'est pas lui qui sauterait du Schragenberg, qu'en penses-tu ? » Et elle se mit à rire. « Écoute, sais-tu où il ira l'été prochain ? Au pôle Nord, pour des recherches scientifiques, il me proposait de l'accompagner. Ah, il dit que nous autres Russes, nous ne savons rien par nous-mêmes, que nous ne sommes capables de rien, que nous devons tout aux Européens. » « Ah ben, il est très bon. Il excuse le général. Il dit que Blanche a la passion. Enfin, je ne sais pas moi-même, le pauvre, je le plains. » « Écoute, comment tueras-tu de Grillet ? As-tu pensé que je te laisserais battre avec lui ? Mais tu ne tueras personne, pas même le baron. Oh, que tu étais drôle avec le baron !» Je vous regardais tous les deux, comme tu étais ridicule. C'est que tu ne voulais pas y aller, il a fallu pourtant. Ah, que j'ai ri alors! Et tout en riant encore, elle se mit de nouveau à m'embrasser, à me serrer dans ses bras, reprise d'une crise de tendresse. Je ne pensais plus à rien, je n'entendais plus rien. C'est alors que la tête me tourna. Il devait être 7 heures du matin quand je revins à moi. Le soleil éclairait la chambre. Paulina était assise près de moi et me regardait étrangement, se détournant parfois pour regarder la table et l'argent. J'avais mal à la tête. Je voulus prendre la main de Paulina, mais elle me repoussa et se leva. Elle s'approcha de la fenêtre, l'ouvrit et resta appuyé à la croisée pendant 3 minutes. Je me demandais, mais que va-t-il arriver ? Comment tout cela finira-t-il ? Tout à coup, elle revint à la table et me regardant avec une haine extraordinaire, me dit, les lèvres tremblantes de colère, « Eh bien, rends-moi maintenant mes 50 000 francs. « Paulina, encore, encore !»« Ah, tu as peut-être réfléchi, tu les regrettes déjà. » Les 25 000 florins étaient encore en tas sur la table. Je les pris et les lui remis. « Ils sont bien à moi, n'est-ce pas ?» me demanda-t-elle avec une physionomie méchante. « Mais ils étaient à toi dès que je les eus. » « Eh bien, les voilà, tes 50 000 francs. » Elle leva la main, me jeta avec force les liasses de billets en plein visage et sortit en courant. Je sais qu'elle était en ce moment comme folle, mais je ne puis comprendre cet accès de folie. Il est vrai que maintenant encore, un mois après cette soirée, elle n'est pas guérie. Mais qu'est-ce qui l'avait mise en cet état? Était-ce le regret d'être venu à moi? Lui ai-je laissé voir trop de vanité de ce bonheur? A-t-elle cru que je voulais, comme de Grillet, me délivrer d'elle en lui donnant 50 000 francs? Il n'en était rien, certes. Je pense que son amour-propre était pour beaucoup dans tout cela. C'est cet amour-propre qui la dissuada de me croire. Elle m'offensait sans se rendre exactement compte de son offense. Elle s'est vengée de Desgriers sur moi. Il est vrai que tout cela n'était que l'effet du délire et que je n'aurais pas dû l'oublier. Peut-être ne pardonnera-t-elle pas de l'avoir oublié maintenant, mais alors, alors, son délire ne lui enlevait donc pas la conscience de ses actes. Elle savait donc ce qu'elle faisait. En venant chez moi avec la lettre de Grillet, je ramassai tant bien que mal tous les billets et le tas d'or. Je mis le tout dans mon lit, sous mon matelas, et 10 minutes après le départ de Paulina, je sortis. J'étais convaincu qu'elle était rentrée chez elle, et je voulais m'introduire furtivement chez eux et demander à la bonne comment allait la Balichnia. Quel ne fut pas mon étonnement quand j'appris de la bonne que Paulina n'était pas encore rentrée et que la bonne elle-même était sur le point de venir la chercher chez moi. « Mais à l'instant même, lui dis-je, à l'instant même, elle vient de sortir de chez moi, ou plutôt il y a 10 minutes. Mais où peut-elle être ?» La bonne me regarda sévèrement. Cependant, on ne parlait dans tout l'hôtel que de Paulina. On se chuchotait chez le majordome que la Fraulein était sortie dès 6 heures du matin de l'hôtel et qu'elle avait couru nu-tête du côté de l'hôtel d'Angleterre. On savait donc qu'elle avait passé la nuit dans ma chambre. Du reste, les cancans sur la famille du général ne tarissaient pas. On savait le général presque fou. On se disait qu'il remplissait l'hôtel de ses larmes. On disait aussi que la babouchka, sa mère, était venue exprès de Russie pour l'empêcher d'épouser mademoiselle de Comminges, qu'elle l'avait déshéritée parce qu'il n'avait pas voulu céder et qu'elle avait perdu tout son argent exprès à la roulette. « Dies Russen !» répétait le majordome avec indignation en hochant la tête. D'autres riaient. Le majordome préparait sa note. On savait aussi mon gain de la veille. Karl, le domestique de mon étage, me félicita le premier. Mais tout ça m'était égal. Je me mis à courir vers l'hôtel d'Angleterre. Il était trop tôt. M. Astley ne recevait personne. Quand on lui fit savoir qui le demandait, il sortit dans le corridor, vint silencieusement à ma rencontre, et fixa sur moi son regard lourd, attendant ce que j'avais à lui dire. Je lui parlai aussitôt de Paulina. « Elle est malade, » répondit-il sans me regarder en face. « Ah, elle est donc réellement chez vous ?»« Oui, oui, chez moi. »« Mais comment, vous avez l'intention de la garder chez vous ? » ?»« Oui, j'y suis disposé. Monsieur Astley, mais c'est un scandale. Cela ne se peut pas. De plus, elle est très malade, vous avez dû vous en apercevoir. Oui, je l'ai vue. Je vous ai déjà dit qu'elle est malade. Si elle n'était pas malade, elle n'aurait pas passé la nuit chez vous. Ah, vous savez donc aussi cela. Ben, je le sais, elle devait venir hier chez moi. Je l'aurais conduite chez ma parente, mais elle était malade, elle s'est trompée. Et c'est pourquoi elle est allée chez vous. Voyez-vous cela? Eh bien, je vous félicite, monsieur Astley. Vous me donnez même une idée. N'est-ce pas vous qui avez passé la nuit sous ma fenêtre? Miss Paulina m'a forcé la nuit à ouvrir la fenêtre pour voir si vous n'étiez pas là. Elle riait beaucoup. Vraiment, non, je n'étais pas sous la fenêtre. Je l'attendais dans votre corridor en me promenant. Mais il faut la soigner, monsieur Astley. Oui, j'ai déjà fait venir un médecin. Et si elle meurt, c'est vous qui me rendrez compte de sa mort. Oh, je restais muet de stupéfaction. Permettez, monsieur Astley, que dites-vous? Est-il vrai que vous avez gagné hier 200 000 thalers? Non, pas tant, 100 000 florins. Vraiment, alors prenez le train de ce matin et partez pour Paris. Pourquoi? Ben, tous les Russes ne vont-ils pas à Paris dès qu'ils ont de l'argent? Dit monsieur Astley du ton d'un homme qui répète une phrase apprise par cœur. Mais que ferais-je à Paris maintenant, monsieur Astley? Je l'aime, vous le savez déjà. Vraiment, oh, je suis sûr que vous vous trompez. D'ailleurs, si vous restez ici, vous perdrez certainement tout ce que vous avez gagné, vous n'aurez plus de quoi aller à Paris. Mais alors, adieu, je suis convaincu que vous partirez aujourd'hui. Bon, adieu. Du reste, je n'irai pas à Paris. Réfléchissez, monsieur Astley, à ce qui va nécessairement se passer chez le général. Car évidemment, cette aventure avec Miss Paulina, ça va être la fable de toute la ville. Oui, la fable de toute la ville. Quant au général, je crois qu'il a d'autres soucis. De plus, Miss Paulina a le droit d'aller où bon lui semble. Quant à cette famille, il est permis de penser qu'elle est tout à fait dissoute. Je partis en souriant à part moi de l'assurance qu'avait cet Anglais de mon prochain départ pour Paris. Pourtant, il veut me tuer en duel si Paulina meurt. Quelle histoire! Je plaignais Paulina. Mais je dois convenir que dès la veille, dès le moment où je m'étais assis à la table de jeu, mon amour avait été relégué au second plan. Je vois cela maintenant. Mais alors, les choses étaient loin d'être aussi claires. Suis-je donc vraiment un joueur? Aimais-je donc si étrangement Paulina? Non, je le jure par Dieu, je l'aimais sincèrement, je l'aime encore. Mais ici se place la plus singulière, la plus drôle de mes aventures. Je courais chez le général quand une porte voisine de la sienne s'ouvrit et quelqu'un m'appela. C'était Madame Veuve Comminges qui m'appelait sur l'ordre de Mademoiselle Blanche. J'entrai chez Mademoiselle Blanche. Son appartement se composait de deux pièces. Je l'entendis rire dans sa chambre à coucher. Elle se levait. Ah, c'est lui! Viens donc, bêta! Est-il vrai que t'as gagné une montagne d'or et d'argent? Oh, j'aimerais mieux l'or! Oui, j'ai gagné, répondis-je en riant. Combien? 100 000 florins. Bi, comme tu es bête! Mais viens donc ici, je t'entends rien, nous ferons bonbons, n'est-ce pas? J'entrai dans la chambre. Elle était vautrée sous sa couverture de satin rose, d'où sortaient ses épaules dorées, fermes, magnifiques, de ses épaules qu'on voit seulement en rêve, et sur lesquelles s'entr'ouvrait une chemise de fine dentelle, oh, ce qui allait fort bien à son teint chaud. « Mon fils, as-tu du cœur ? » s'écria-t-elle en m'apercevant et en riant de plus belle. Sa gaieté semblait même sincère. « Tout autre que... » commençai-je en parodiant Corneille. Vois-tu, d'abord trouve-moi mes bas et aide-moi à les mettre. Ensuite, si tu n'es pas trop bête, je t'emmène à Paris. Tu sais que je pars à l'instant. » « À l'instant ? » « Oui, dans une demi-heure. » En effet, les paquets étaient faits, les malles étaient bouclées, le café servi depuis longtemps. « Eh bien, tu verras Paris. Dis donc, qu'est-ce que c'est un Uchitel ? T'étais bien bête quand t'étais Uchitel. Oh, où sont mes bas ? Allons, aide-moi donc. » Elle me montra un petit pied adorable, un pied de statue. Je me mis à rire et l'aidai à mettre un bas, tandis qu'elle restait au lit et continuait à bavarder. « Eh bien, que feras-tu si je t'emmène ? D'abord, je veux 50 000 francs. Tu me les donneras à Francfort. Nous allons à Paris. Là, nous vivrons ensemble et je te ferai voir des étoiles en plein jour. Oh, tu verras des femmes telles que tu n'en as encore jamais vues. Écoute. Attends. Je te donne 50 000 francs, soit, mais alors que me restera-t-il ? 150 000. De plus, je reste avec toi un mois, 2 mois, je ne sais combien de mois. Nous dépenserons pendant ces 2 mois les 150 000 francs, cela va sans dire. Tu vois, je suis bon enfant et je t'avertis d'avance. Tu verras des étoiles. Mais comment nous dépenserons tout en 2 mois ? Ça t'effraie, oh, vil esclave. Ne sais-tu donc pas qu'un mois de cette vie vaut mieux que toute son existence ? Un mois et après le déluge. Mais tu ne peux comprendre, et va-t'en. Oh, tu ne vaux pas ce que je t'offre. Aïe, que fais-tu ? Je chaussais son second pied, et ne pouvant plus y tenir, je l'embrassai. Elle le retira prestement et m'en donna un coup en pleine figure. Là-dessus, elle me mit à la porte. « Eh bien, mon Uchitel, je t'attends si tu veux. Dans un quart d'heure, je pars, » me cria-t-elle comme je m'en allais. En rentrant chez moi, je me sentais comme étourdi. Était-ce ma faute si Paulina m'avait jeté mes billets de banque à la figure et m'avait préféré M. Astley ? Quelques-uns des billets traînaient encore à terre, je les ramassais. À ce moment, la porte s'ouvrit et le majordome lui-même apparut. Naguère, il ne me faisait même pas l'honneur d'un salut. Maintenant, il venait m'offrir l'appartement que le comte V avait occupé et venait de quitter. Je réfléchis quelques instants. « Ma note, » m'écriai-je tout à coup, « je pars dans 10 minutes. »« À Paris, soit à Paris, » pensais-je, « c'est probablement ma destinée. » Un quart d'heure après, nous étions tous trois dans un wagon de famille, Blanche, la veuve Comminges et moi. Blanche riait aux éclats en me regardant. La veuve Comminges l'imitait, mais plus discrètement. J'étais le moins gai des trois. Ma vie se brisait là en 2 parts, mais j'avais pris dès la veille le parti de risquer tout l'avenir sur une carte. Peut-être était-ce cette fortune et cette bonne fortune inattendue qui submergeait ma volonté. Peut-être ne demandais-je pas mieux. Il me semblait que le décor de la comédie de ma vie n'était d'ailleurs changé que pour peu de temps. Dans 1 mois, je serai de retour et alors... Alors à nous deux, Monsieur Astley. Je me rappelle maintenant encore comme j'étais triste en ce moment. Oh, profondément triste. Et pourtant, je tâchais de rire avec cette petite folle. « Mais que veux-tu encore ? Comme tu es bête !» criait-elle tout en riant. « Eh bien oui, oui, nous allons les flamber, tes 200 000 francs. Mais tu seras heureux comme un petit roi. Je ferai moi-même le nœud de ta cravate et je te présenterai à Hortense. Et quand nous aurons tout dépensé, ben, tu reviendras ici te refaire. Que t'ont dit les Juifs ? L'important, c'est d'être courageux, tu l'es. Je reviendrai, tu reviendras à Paris, m'apporter de l'argent plusieurs fois. Quant à moi, oh, je veux 50 000 francs de rente, et alors? Et le général, demandai-je. Oh, le général, oh, il va tous les jours me chercher un bouquet à cette heure-ci, tu le sais bien. Justement, aujourd'hui, je lui en ai demandé un des fleurs les plus rares. Quand il rentrera, il verra que le bel oiseau, comme disait sa babouchka, s'est envolé. Parions qu'il nous suivra. Ah, j'en serai bien aise. Il me servira à Paris pendant qu'ici sa note sera soldée par Monsieur Astley. Et voilà comment je partis pour Paris.